Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux. L'Intégral Sport et les lives qui vont commencer à s'accumuler sur l'antenne d'RMC cet après-midi avec les deux premiers lives de foot. Il y en aura d'autres évidemment puisque la Ligue 1 débutera tout à l'heure à 17h avec Auxerre Strasbourg. Mais pour l'instant, c'est la Ligue 2 qui est à l'honneur avec deux matchs qui viennent de débuter. On vous les a présentés. On va donc aller faire un tour à Bordeaux pour Girondins, Guingamp, Nicolas Pauleur. Si c'est parti.
Oui, c'est parti. 5 minutes de jeu. 0-0 entre Bordeaux 3e et Guingamp 6e. Aucune occasion. Hein. C'est plutôt les Bordelais qui ont le pied sur le ballon avec Jacques Écomier, le jeune latéral gauche de 19 ans qui va repasser derrière avec Stian Gregersen et Gaëtan Poussin qui va allonger. Match important pour des Bordelais toujours aussi jeune. Attention à cette paire de balles justement de Malcolm Bokele pour l'Ivolan. Il y a face à Poussin, le but pour Guingamp sur cette grosse paire de balles de Malcolm Bokele. Je crois que c'est Jérémy L'Ivolan qui est lancé dans la surface de réparation et qui vient tromper d'une frappe croisée Gaëtan Poussin. Le premier but encaissé par les Girondins de Bordeaux dans cette saison de Ligue 2 après une erreur de jeunesse. Fallait bien au bout d'un moment qu'elle craque cette jeunesse bordelaise. 1-0 pour Guingamp.
Une grosse erreur de défensive donc du joueur des Girondins et ça a été la sanction immédiate pour les Bretons qui mènent donc désormais 1-0 après un peu plus de 5 minutes de jeu à Bordeaux. Direction la Lorraine, la fête de la Mirabelle, la fête du FC Metz qui reçoit Dijon. Sébastien Ruffet.
Ça fait 6 minutes 30 de jeu ici à Saint-Symphorien dans une belle ambiance. Toujours 0-0 dans ce match entre le 5e Metz et le 4e Dijon. Et pour l'instant, léger avantage, on va dire, au Dijonais dans la maîtrise et la possession du ballon, même s'ils se sont fait peur tout à l'heure avec un dégagement manqué de Baptiste René qui aurait pu profiter au Messin, mais derrière ça a été mal exploité par l'attaque Grenat cet après-midi face au plan de Dijon. Et petit élément à prendre en compte peut-être, c'est ce terrain, cette pelouse qui a l'air pas mal vu d'ici, mais il y a déjà eu 5-6 glissades sur des prises d'appui qui avaient l'air anodines. Donc attention les défenseurs à pas faire une petite glissade aux abords des 16 mètres parce que ça pourrait être la punition immédiate. Attention peut-être cette frappe de Kevin Endora. Maintenant il va préférer la ressortir, la frappe pour rouler. Et là voilà la première frappe cadrée d'Abib Maïga. C'est saisi sans trop de problèmes par Baptiste René. Mais voilà un premier petit frisson pour le public nombreux effectivement au stade Saint-Symphorien cet après-midi. 7 minutes 0-0 entre Metz et Dijon.
Ok Sébastien, juste un petit mot avec toi Nicolas. Alors il n'y a pas de VAR hein, je crois sur la Ligue 2 hein. Bah, c'est bien dommage parce qu'a priori
il y avait hors jeu. Bah, je vois un petit peu devant moi vitesse réelle, mais en effet il n'y a pas de VAR en Ligue 2. C'est vrai qu'à vitesse réelle moi j'avais l'impression qu'il était légèrement devant la défense bordelaise, mais bon ça joue à pas grand chose hein. Toujours 1-0 pour Guingamp, 7 minutes de jeu. Le buteur c'est Jérémy L'Ivolan, le capitaine Jérémy L'Ivolan qui a mis peut-être déjà le but de l'année. Il y a deux matchs de cela, une demi-volée de 35 mètres qui est retombée dans la lucarne du gardien de Laval. Sublime but.
Oh, attention avec Mickaël Le Bihan qui va enrouler sa frappe. L'arrêt de Marco Rencaillard, celui-là ça c'est un bel arrêt, c'est une vraie belle occasion pour les Dijonais. Contre-attaque bien menée par Mickaël Le Bihan au départ avec le relais avec Sandé Silva qui lui remet côté gauche. Il enroule avec son pied droit à ras terre, mais bel arrêt là de Marco Rencaillard qui se détend rapidement au sol pour la repousser. Ce sera un corner à venir pour les Dijonais.
Merci Sébastien. 15h08 sur RMC. On va prendre la direction des Alpes. Nous allons à Chamonix où c'est terminé. Enfin, c'est pas terminé pour tout le monde, mais pour les meilleurs, c'est terminé. L'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui a donc vu le nouveau sacre de Kylian Jornet, l'extraterrestre, qui en est, je crois, à 4 victoires. Il s'est donc imposé tout à l'heure et a même battu le record de l'épreuve en moins de 20 heures. Il a parcouru les 171 km, poursuivi par Léna Marjac, qui a presque rattrapé Kylian Jornet. Bonjour Léna.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Ouais, ça a été dur quand même de le suivre toute la nuit. Nous, on a fait une nuit blanche pour essayer de suivre les élites, comme on l'appelle, ces coureurs professionnels dont fait partie bien cette star espagnole, Kylian Jornet. 19h 49 minutes, c'est son record aujourd'hui. Il a franchi la ligne d'arrivée eh bien, sous les ovations de tout ce public ici à Chamonix. Et bah, je peux vous dire qu'il ne semblait pas forcément fatigué, même moins fatigué que nous qui avons fait donc une nuit blanche pour poursuivre tous ces coureurs. C'est 2300 coureurs. Kylian Jornet donc est arrivé tout à l'heure et derrière lui, eh bien faut noter la très très belle performance de notre Français Mathieu Blanchard qui lui est arrivé avec seulement 5 petites minutes de retard, 19h54 derrière Kylian Jornet.
Jornet qui n'était pas présent à l'UTMB depuis plusieurs années, il avait un peu délaissé, enfin pas complètement délaissé, mais il s'était consacré aussi au ski alpinisme. Mais il a gardé les qualités incroyables, c'est vraiment un extraterrestre ce garçon.
Oui, complètement, hein. Même quand on parle au public, aux autres coureurs, parce que j'avais interviewé justement Mathieu Blanchard juste avant le début de la course, et il me disait qu'effectivement c'est la légende de leur sport, de leur discipline, de l'ultra trail, et il l'a encore montré aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que quelques jours avant, même quelques heures avant le départ, Kylian Jornet n'était pas sûr de prendre part à la course, puisqu'il avait été testé positif au Covid il y a quelques semaines maintenant, et qu'il avait un petit peu peur des répercussions sur son organisme. Bah, finalement, ça va plutôt pas mal.
Il y en a qui ont moins bien vécu le Covid quand même que lui. Hein.
Effectivement, parce que quand on voit presque la facilité avec laquelle il est allé jusqu'au bout de cette course-là, on l'a vu arriver à l'arrivée, où il a fait les interviews en français, en anglais, en espagnol. C'était d'une fluidité parfaite. Il a quand même dit qu'il avait un petit peu mal aux jambes, mais je peux vous dire qu'il semblait plutôt frais quand même, cet espagnol Kylian Jornet.
Ouais, alors il n'y a pas que les ultra-trails. Je crois qu'il a aussi battu le record d'ascension du Mont Blanc, du Cervin. Ce garçon ne marche pas, il court dans les montagnes, hein. C'est son truc, quoi. Il sait pas marcher, en fait.
C'est exactement ça, c'est ça. Si vous voyez l'allure à laquelle il monte, alors il est très très fort en montée. C'est justement ce que disait le Français Mathieu Blanchard, c'est que Kylian Jornet, a gagné beaucoup de temps dans les montées, mais dans les descentes, c'était le Français qui arrivait à grappiller quelques minutes. Mais oui, Kylian Jornet, c'est l'homme des records, on peut le dire, et il a encore prouvé aujourd'hui avec ses 19h49. C'est lui qui domine cette discipline, et aujourd'hui, il a remporté donc son 4e UTMB Ultra Trail du Mont Blanc, et c'était donc sa nouvelle apparition après 4 ans d'absence. La dernière fois, c'était en 2018, et donc là, le voilà de nouveau sur le toit de l'Europe, puisque je vous le rappelle, hein, c'est 171 km, 10 000 mètres de dénivelé, puis on passe dans 3 pays, la France, l'Italie, la Suisse, et on revient ici à Chamonix pour une belle ovation et un beau finish avec Kylian Jornet qui est arrivé premier.
Et Léna, donc tu as pu suivre, tu as pu te placer à plusieurs endroits de la course pour voir le passage de Jornet. Je crois que tu étais en Italie, à Courmayeur, j'ai entendu ça ce matin dans ton reportage. Tu t'es déplacé comme ça pour voir l'avancée de la course?
Et tout à fait. En fait, on a des guides de haute montagne qui sont avec nous en voiture. Donc nous, on est partis en voiture dès hier soir après le coup d'envoi. Moi, j'ai d'abord suivi les amateurs, puisque je voulais. En fait, il y a une deuxième course à côté, parce qu'il y a la course des élites, mais il faut pas oublier ces milliers d'amateurs qui eux aussi prennent le départ de l'ultra trail du Mont Blanc et qui n'ont pas forcément d'objectif à la fin. Il faut qu'ils arrivent à le terminer en moins de 46 heures et 30 minutes, c'est-à-dire jusqu'à demain après-midi. Ils ont jusqu'à demain après-midi pour arriver. Et puis au bout de arriver en Italie, on s'est dit qu'il fallait maintenant suivre les élites, parce que ça va très vite. Il fallait voir un petit peu aussi cette organisation tout autour d'eux, parce que les amateurs, ils n'ont pas tout un staff autour d'eux. Kylian Jornet, il y a une personne qui lui est dédiée, qui lui prépare sa nourriture, ses boissons dès qu'il arrive à un point de ravitaillement. Et je peux vous dire que c'est assez impressionnant. C'est vraiment des coureurs professionnels, des sportifs professionnels. Et Kylian Jornet, a juste été monumental aujourd'hui, même si on parle du Français, mais il y a un Américain qui l'a fait douter tout le long aussi de la course, jusqu'à ce matin en Suisse. C'est James Walmsley, qui lui a dominé toute la course jusqu'à ce matin encore, mais finalement il a craqué à un moment, et Kylian Jornet en a profité pour venir s'imposer ensuite.
Très bien, un extraterrestre qui en 2012 avait traversé le Mont Blanc. Il était parti de Courmayeur, donc en Italie, vers Chamonix, en passant par une arête, tout ça en 8h42. Donc voilà, ça vous classe un garçon qui a franchi ses premiers 4000, je crois qu'il avait 5 ou 6 ans seulement, et qui est tout simplement incroyable, 34 ans, et il bat tous les petits jeunes. Donc lui qui a aussi escaladé les 8000 dans le massif de l'Himalaya, il est tout simplement incroyable. C'est une véritable rockstar, hein, dans sa discipline, tout en restant très très humble et très facile d'accès. Merci Léna, petite sieste quand même là, hein.
Merci à vous. Alors on va aller se reposer un petit peu, parce que je suis levée depuis 7h30 hier, ça devient compliqué.
Oh là là, c'est ça, la dure vie.
C'était une belle expérience.
Ah ouais, c'est magnifique, oui. Tu t'en es mis plein les yeux. Merci Léna de nous avoir fait vivre, notamment ce matin dans les grandes gueules du sport, avec un magnifique reportage, cette ultra trail du Mont Blanc, remportée donc par Kylian Jornet. 15h14, on repart avec nos marathoniens du football. Ils sont là tout au long de l'année, évidemment, bon, pour 1h30 seulement, mais enfin voilà, il faut le faire.
Plein de fois.
C'est déjà bien. Bien assez long, hein, 1h30.
Moi, je tiens pas, hein. Parfois, ouais. Parfois, c'est bien, bien long, hein, 1h30. Ah, oui. On commence par qui ? Par Bordeaux. Bordeaux qui est mené par Guingamp, Nicolas.
Exactement. 1-0 depuis la 6e minute. Le but du capitaine Jérémy Livolon. Il y a quand même un coup franc pour les Bordelais qui dominent, hein, ce début de match. Attention au deuxième poteau. La sortie d'Enzo Basilio. Parfaite cette sortie sur la tête de Franck Sergio. Il est venu s'imposer. Bordeaux domine. Bordeaux n'est pas en danger, absolument pas mis en danger par les Bretons. Sauf que Malcolm Bokele, le défenseur central bordelais de 22 ans, a raté un contrôle dans ses 20 mètres. Ça a été immédiatement exploité par Gaëtan Courté, par Jérémy Livolant. Sinon, pour l'instant, le début de match, il est vraiment, vraiment à l'avantage des Girondins. On n'a pas du tout vu Guingamp dans ce début de partie. Le quart d'heure de jeu au Matmut Atlantique, 1-0 pour Guingamp.
Sébastien, pour la rencontre Metz-Dijon, pour l'instant, toujours 0-0.
Hein. Toujours 0-0. On arrive au premier quart d'heure de jeu, précisément, là, voilà, au stade Saint-Symphorien, toujours 0-0 et deux styles un petit peu opposés. On voit des Dijonais qui essayent beaucoup de poser le ballon, de trouver des combinaisons, des possibilités dans les intervalles, comme tout à l'heure avec cette grosse occasion pour Mickaël Le Bihan, alors que les Messins sont davantage dans un style un peu plus direct. On cherche la vitesse d'Ibrahimanian, de Lamine Gueye, très rapidement vers l'avant, alors qu'il y a quand même des joueurs de ballon dans cette équipe, mais c'est peut-être une façon de les faire aussi un petit peu douter et reculer ces Dijonais qui pour l'instant ont plutôt la maîtrise du ballon, hein, globalement, au-delà de cette grosse occasion tout à l'heure. Ils n'ont pas laissé grand-chose pour l'instant au Messin, mais ça manque encore un petit peu de folie, je dirais. On cherche un petit peu les marques encore, hein, d'un côté comme de l'autre. On s'observe encore un petit peu dans cette partie, même si là peut-être Brian Soumaré va peut-être pouvoir trouver une solution. Il revient, on est à 30 mètres du but Messin sur le côté droit avec un relais. On va trouver Mickaël Le Bihan là-bas sur le côté droit. Allez, il a du champ pour peut-être ramener un centre. Il va revenir sur son pied gauche, il va remettre la frappe, peut-être le petit crochet, c'est bien joué. Un deuxième ballon, ça va traîner aux abords de la surface de réparation. Il va passer en retrait pour Jordan Marié, ça va passer à côté. Ben voilà, une action qui était plutôt pas mal construite, plutôt intéressante de la part des Dijonais, qui confirment un petit peu leur bon début de partie. 16 minutes ici à Saint-Symphorien, toujours 0-0 entre Metz et Dijon.
À tout à l'heure, Sébastien, direction la Normandie, l'hippodrome de Deauville pour le quintet du jour avec Dimitri Blanc-l'œil. Dimitri, c'est parti.
Alors, bonjour Christophe, bonjour à tous. Effectivement, c'est parti Christophe, il reste 1500 mètres à disputer dans ce quintet. La distance était 1900, donc voilà, ils viennent de passer le premier tournant de cette épreuve. Je rappelle que le numéro 6 et le numéro 12 sont non partants. Ils sont donc 14 à s'affronter sur cette piste en sable fibré. L'avantage actuellement pour le numéro 16, c'est Narcissus qui est en tête, deuxième position pour l'As Moneyman, l'un des concurrents en vue, qui vient à son extérieur. Troisième position côté corde pour le 11, c'est Red Crazy. Alors qu'en quatrième position, vous avez le 13 Wuchich, qui est sur une deuxième ligne côté corde, qui est même décalé un petit peu en troisième épaisseur. Il ramène dans le wagon juste derrière lui le numéro 8 Amboise, qui a un bon parcours, qui se retrouve en 7-8e position, qui précède actuellement le 9 Vino Bello. Alors qu'à l'arrière du peloton, deux concurrents, le 7 Bévent et le 10 Licor. Nous sommes à 800 mètres de l'arrivée dans cette épreuve, dans le dernier tournant. Ils vont bientôt ensuite sortir de ce dernier tournant. Il va rester environ 400 mètres de ligne droite, avec pour l'instant toujours l'avantage pour ce numéro 16 Narcissus, Anthony Kratus, qui contrôle les opérations. Deuxième position côté corde pour le numéro 11 Red Crazy. À son extérieur, c'est l'As Moneyman qui est bien placé. Troisième position pour le 13 Watch It, qui continue sa progression, qui emmène le 8 Amboise dans son sillage, alors que l'on va rentrer maintenant dans cette dernière ligne droite. Il reste 500 mètres à parcourir avec le numéro 7 Narcissus qui est en tête. Deuxième position pour l'As Moneyweb qui vient à son extérieur côté corde. On n'a pas le passage avec le 11 Red Crazy, alors que Watch It, le 13, essaie de venir en pleine piste, de même que le numéro 8 Amboise qui va faire une bonne ligne droite à 300 mètres du poteau. C'est toujours numéro 16 Narcissus qui a l'avantage, mais attention à Amboise qui revient mètre par mètre. Amboise qui va attaquer Moneyman, ça va se jouer entre ces trois concurrents. Amboise le numéro 8 avec Moneyman à son intérieur, le numéro 1 ainsi que le numéro 9 Viviano Bello qui essaie de garder un lot, mais c'est le numéro 8 Amboise qui va s'imposer dans ce quintet et qui est venu à bout du numéro 1 Moneyman qui était l'un des favoris de cette épreuve, alors que le 16 Narcissus qui avait fait tête et corde a gardé, il me semble, la troisième place dans cette épreuve, mais c'est bien le numéro 8 Amboise qui s'impose. C'est Grégory Benoît qui est associé à cet élève de François Rohaud. La cote finale, 9,70€ pour ce numéro 8. La deuxième place pour Moneyman, le numéro 1. Et après, photo finish, hein, entre le numéro 16 à la corde, le numéro 3 et le numéro 5. Le temps que la photo se développe, Christophe, hein, je vais te rendre la parole, on verra ça dans une trentaine de minutes. En tout cas, le numéro 8 devant le numéro 1. Et ensuite, photo 3, 5 et 16 pour la 4e et 5e place.
PMU. Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Dimitri, merci beaucoup. Donc la confirmation des résultats officiels dans quelques minutes.
Après Christophe, une occasion énorme, oui, là pour le FC Metz. J'attendais juste la fin, la dernière ligne droite de la course hippique pour pas interrompre, mais on a eu un arrêt assez exceptionnel de Baptiste René là sur un corner pour les Messins. Je crois que c'est Fadil Kandé, mais ils étaient plusieurs là au ballon, qui est vraiment sur un ballon rentrant à bout portant, à peut-être 2-3 mètres maximum de la ligne. Pratiquement tout le public était déjà debout. Il est un petit peu sur les talons et réussit à se détendre sur sa droite avec la main qui est vraiment, je pense, au niveau de la ligne de but. La montre a pas vibré, mais ça doit se jouer à quelques centimètres. Arrêt incroyable à bout portant de Baptiste René pour garder les Dijonais pour l'instant à 0-0 face à Metz après 19 minutes.
Il y a la goal line technologie en Ligue 2 ?
Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, non, peut-être pas s'il n'y a pas la VAR, je ne sais pas.
Non, non, je ne crois pas.
Je crois qu'il n'y a rien du tout. Hein. Ouais. Il n'y a rien du tout. Hein.
Ah, mais c'est pour ça les équiper, comme c'est pas le sport amateur, la Ligue 2. Hein. Non, mais je veux dire, il y a des enjeux qui sont aussi, peut-être pas aussi forts que la Ligue 1, mais il y a de l'enjeu quand même pour ces clubs-là. Donc, voilà.
Non, les arbitres viennent avec leur sifflet et leur crayon, hein, c'est tout.
Je pense pas qu'elle était entrée. Il était bien devant, mais enfin, en tout cas, l'arrêt réflexe est quand même très étonnant et vraiment superbe de la part de Baptiste Auré.
Voilà, le sifflet et le couteau plutôt, pour revenir dans la comparaison. Nico, pour le match entre Bordeaux et Guingamp, là, le score a été ouvert en tout début de match. Hein.
Oui, 1-0 pour Guingamp. Tu parlais des arbitres, ils viennent avec leur sifflet, également avec leur carton. Hein. C'est le cas d'Aurélien Petit en ce début d'après-midi, fidèle à. Aux nouvelles consignes données par l'arbitrage français pour ce début de saison, le match est très correct et pourtant déjà deux joueurs de Bordeaux avertis pour des fautes vraiment des duels quoi. Dans un sport de contact, il y a forcément des duels, mais on a sorti très rapidement les cartons jaunes. 1-0 pour Guingamp, le buteur Lee Volant à la 6e sur une erreur de Malcolm Bokele, immédiatement exploité par les Bretons. La passe en retrait pour Basilio, Bordeaux qui domine. Ça se rapproche vraiment pour les Girondins de Bordeaux tout de même, même s'ils sont un peu imprécis dans les 20 derniers mètres. Ballon récupéré au milieu de terrain par Guingamp avec Vincent Manceau qui va prendre son couloir, c'est plutôt bien fait. Est-ce que cette balle est sortie en touche? Non. Dylan Wieser va pouvoir repasser derrière avec Mathis Rioux qui va essayer de combiner sur le côté droit avec Vincent Manceau, mais le pressing bordelais est bien en place. C'est malgré tout la première séquence de conservation de balle de Guingamp depuis 3-4 minutes. Ils ont vraiment du mal dans ce début de match, mais pourtant c'est bien eux qui mènent 1-0.
Merci Nico. Donc un but à 0 pour Bordeaux face à Guingamp et 0-0 pour l'instant entre Metz et Dijon. La Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste, nous sommes dans la 8e étape, on s'approche de l'arrivée, on en est quand même assez loin, un peu plus de 80 km à parcourir avec, on vous le rappelle, donc un groupe d'échappés qui continue d'accroître son avance, même si l'avance croit que très doucement
très légèrement, hein. Il y avait 4 minutes il y a 5 minutes et là il y a 4 minutes 17, donc voilà, ils ont repris 17 secondes en l'espace de 5 km, 80 km de l'arrivée donc pour les 10 hommes de tête. Je vais vous donner les noms: Alexei Lutsenko, Mikel Landa, Ren Taramae, Lucas Hamilton, Mats Pedersen, Marc Soler et Jevine, qui d'ailleurs fait les points pour le maillot blanc à pois bleu. C'est la petite différence avec le Tour de France, maillot du meilleur grappeur. Et évidemment, on a trois coureurs de la FDJ, Armirail Reichenbach, qui travaille pour Thibaut Pinot, qui est bien là. Thibaut Pinot décroché au général, hein, 14 minutes et 58 secondes de retard sur Remco et Evenepoel. Et Thibaut Pinot qui veut aller chercher une très belle victoire d'étape, lui qui a déjà gagné des étapes, hein, sur la Volta. Évidemment, il a déjà fait 6e du général, il aime cette course. Donc voilà, Thibaut Pinot bien présent en tête, 4 minutes et 13 secondes d'avance sur le peloton mené par les Quick-Step de Remco et Evenepoel, accompagné du champion du monde qui est juste devant lui, Julien Alaphilippe, qui est bien là pour aider son leader.
Ok, merci beaucoup Johan, à tout à l'heure pour la suite de cette course arrivée programmée après 17h. Il est 15h22, on revient dans un instant pour la suite de nos directs. On va aussi s'intéresser au basket avec un match important ce soir entre la Bosnie et la France. Morgan Mori viendra tout nous dire dans quelques instants.
RMC Intégral Sport, Christophe Cessieux.
Et nous suivons la Ligue de cet après-midi. La 5e journée a débuté il y a une petite demi-heure maintenant. Ça se passe à Bordeaux, où Bordeaux reçoit Guingamp, et à Metz, où le FC Metz affronte Dijon. On commence par Bordeaux-Guingamp, Nicolas Paul. Alors, c'est toujours un but à 0 pour les Guingampais.
Et oui, toujours un but 1-0 pour les Guingampais. Jérémy Lee Volant à la 6e minute sur une perte de balle de Malcolm Bokele, le défenseur central bordelais. Et je pense que c'est la 4e faute bordelaise depuis le début du match. 3e carton jaune. Hein. Ça sort les biscottes dans tous les sens. Alors là, sur ce duel aérien, j'ai quand même l'impression qu'Ignatenko attrape avec le coude le milieu de terrain de Guingamp. C'est Sten Gregersen plutôt qui a pris le carton jaune. Je ne sais pas s'il y a du sang. En tout cas, le jeu est arrêté. 28 minutes de jeu, 1-0 pour Guingamp.
Ok, le jeu continue en revanche à Saint-Symphorien entre Metz et Dijon. Sébastien.
Tout à fait, il n'est pas arrêté. Au contraire, même avec Ibrahim Agnan là-bas qui le tacle. Non, Benoît Mieux qui estime qu'il n'y a rien du tout. 0-0 toujours après 28 minutes de jeu. Et le ballon qui repart déjà dans l'autre sens avec Brian Soumaré qui va pouvoir trouver Silva dans la soirée de réparation. Le but ! Oh, le but, le voilà pour le DFCO avec ce ballon où tout le monde se regarde un petit peu. C'est vrai, après ce tacle là-bas sur Ibrahim Agnan qui s'est relevé. Il y a un petit temps de flottement, on regarde l'arbitre et les Dijonais, eux, continuent à jouer. Ils viennent mettre ce but à 2 contre 6 pratiquement, puisque Brian Soumaré avance, il a 35 mètres à peu près du but. et il met un petit ballon dans la profondeur. On est un petit peu en retard au démarrage côté FC Metz. Et Chandé Silva qui y va et qui à l'entrée des 16 mètres prend sa chance, frappe coup de pied tendu, ras de terre, et ça passe sous le bras ou entre les jambes, je ne sais pas trop, de Marco Red Caillard qui fusille un petit peu là à bout portant et qui sur ce coup-là ne peut pas forcément faire grand-chose. Il faudra revoir les images qu'on n'a pas de toute façon ici, mais voilà, on pourra nous en dire plus plus tard. Mais en tout cas voilà, ça vient confirmer néanmoins le bon début de match de Dijon qui dominait quand même cette partie face à des Messins beaucoup trop brouillons pour l'instant, qui n'arrivent pas à se trouver, qui sont maladroits techniquement, et donc ça confirme voilà, après la première demi-heure, l'avantage des Dijonais. Il se concrétise donc au score ici 1-0 face à Metz.
Et les deux équipes visiteuses mènent donc au score, Guingamp sur la pelouse de Bordeaux et Dijon sur celle de Metz. On revient vers vous dans quelques instants, messieurs. On va également s'intéresser à une autre rencontre qui aura lieu tout à l'heure à 19h. Vous suivrez évidemment toutes ces rencontres dans le multiplex avec Benoît Boutron. Valenciennes reçoit Saint-Étienne. On parlait donc des relégués Bordeaux, Metz qui vont plutôt pas mal en ce début de saison. Ce n'est pas le cas du troisième relégué, l'AS Saint-Étienne, qui végète dans les fonds, dans les tréfonds du classement, tout simplement dernier, les Verts, et qui ont subi une humiliation la semaine dernière à domicile. La semaine a été compliquée. On en parle avec Clément Brossard qui va suivre la rencontre pour nous cet après-midi. Salut Clément.
Salut Christophe, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans le Nord, messieurs. Ouais. Tu parlais des équipes qui marchent bien à l'extérieur. Bah, ce serait une bonne nouvelle pour Saint-Étienne. En effet, parce qu'ils sont au fond du trou, les Stéphanois, moins 1 au compteur. Vous vous rappelez qu'ils ont commencé ce championnat de Ligue 2 avec moins 3 points suite aux incidents lors des barrages face à Auxerre. Et donc, depuis, eh bien, ils sont toujours en délicatesse, les Stéphanois, en crise même. Et ce sera un rendez-vous très, très important face à Valenciennes ce soir pour enfin retrouver le chemin du mieux, si ce n'est la victoire.
Ouais, la semaine a été compliquée, j'imagine, quand même, du côté de l'Étra, du côté de Saint-Étienne. Hein.
Oui, très compliquée et avec beaucoup de tension, évidemment, puisque tu parlais de cette claque reçue la semaine dernière, 6-0, Christophe, face au Havre à domicile. C'est historique, hein. Jamais l'AS Saint-Étienne n'avait perdu à Geoffroy Guichard sur un tel score. Et forcément, ça a laissé des marques à l'entraînement. Il y avait beaucoup de joueurs tendus. Laurent Batless également s'en est pris même à un des supporters qui était présent au centre d'entraînement, qui invectivait un petit peu les joueurs en demandant beaucoup de sérénité. On essaye de faire corps, mine de rien, malgré la situation, pour essayer de remettre l'AS Saint-Etienne sur les bons rails. Mais malgré tout, au-delà de la défaite 6-0 la semaine dernière, il y a aussi sur le plan de l'effectif beaucoup de pertes, puisque ça fait 5 cartons rouges en 4 matchs, et c'est assez rare de voir ce genre de choses en tout début de championnat. 5 cartons rouges contre l'AS Saint-Etienne, 3 lors du dernier match face au Havre, et cette défaite 6-0. Et du coup, Laurent Batless sera handicapé cet après-midi dans le Nord à Valenciennes, puisqu'il ne pourra pas compter sur son défenseur Briançon, sur son milieu, l'ex-Rémois Cafaro, encore sur son gardien Étienne Green, qui sera remplacé par Mathieu Dreyer, qui vient d'arriver à Saint-Étienne, l'ancien Lorientais, qui a été présenté en conférence de presse devant les médias cette semaine et qui s'apprête à disputer son premier match sous le maillot des Verts. Donc de la casse au niveau du classement au Saint-Étienne et Lanterne Rouge avec moins un point en négatif, et de la casse également au niveau de l'effectif.
Voilà, et Laurent Batless qui a dit cette semaine, on subit beaucoup en ce moment, les points en moins, hein, on rappelle qu'ils sont à moins 1, le stade vide. Je ne sais pas encore pour combien de matchs.
Encore un match.
Encore un match. Certaines décisions arbitrales, dit-il. Vivement le 1er septembre. Là, personne ne pourra se cacher. On sera ensemble jusqu'à la fin de la saison. Et cela fera drôle à certains quand j'expliquerai certaines choses. Hein. Donc, je ne sais pas si certains se sentent visés, mais ils ont intérêt à rectifier la donne d'ici quelques jours. Quoi, hein.
Exactement, il va certainement hausser le ton encore un petit peu plus, Laurent Batless. Mathieu Debuchy, l'ancien Stéphanois qui est capitaine de Valenciennes, qui sera sur le banc ce soir puisqu'il revient de blessure. Il connaît bien la maison et il l'a dit par rapport à cette claque à 6-0 la semaine dernière. Aucun doute que ça a dû remuer un petit peu dans le vestiaire et au centre d'entraînement, parce qu'il connaît Laurent Batless, parce qu'il connaît également Loïc Perrin. Il connaît la nature de ces hommes et leur capacité à rendre un groupe un peu plus fort après une telle claque. Donc il y a eu du mouvement en centre d'entraînement, c'est une certitude. Après, il y aura encore certainement, en parlant de mouvement, eh bien des joueurs qui vont bouger avant la fin du mercato qui arrive dans quelques jours désormais. On sait que Madi Camara, qui a porté le brassard de capitaine la saison dernière, s'est engagé avec le Stade Brestois en prêt avec option d'achat. On attend des renforts également sur le plan offensif, mais pour l'instant ça tarde à venir. On a parlé d'Irvine Cardona, l'ancien monégasque au Stade Brestois, mais pour le moment la piste est compliquée. Également Abdoulaziz Yacoubou qui pourrait arriver, c'est un attaquant ghanéen de 23 ans, qui est pisté par les Verts, qui jouait à Rio Ave, qui a marqué 14 buts la saison dernière. Et puis également de l'Orientais avec Léo Petro, le défenseur central, et Thomas Monconduit, le milieu centre, qui pourrait apporter un petit peu d'expérience dans cette équipe stéphanoise pour en plus un tarif qui serait aux alentours de moins d'un million d'euros, environ 500 000 euros. Donc ce serait une bonne pioche de la part des Stéphanois. Mais voilà, tout va mal pour l'instant à Saint-Etienne. Il y a ce déplacement qui arrive face à Valenciennes et à Valenciennes ce soir dans le Nord pour enfin relancer une dynamique face à une équipe qui est difficile à négocier également, surtout armée d'une très bonne défense. Un seul but pris sur les quatre derniers matchs. Il va falloir déverrouiller ce verrou valenciennois ce soir pour les Verts.
Dis-moi Clément, on m'a dit que tu avais changé de régime, que tu étais passé du pain bagnat à la pisse à la bière aux spécialités du Nord. J'étais un peu inquiet, je pensais que tu ferais la sieste à cette heure-là quand même. Hein.
Plus difficile à digérer. je vais te l'avouer Christophe. Alors, on va dire qu'un Welsh au Marois à 14h30, heureusement que le coup d'envoi est à 19h, voyez-vous.
Je pense qu'il y a une bonne sieste qui s'impose là quand même, hein, avant le coup d'envoi tout à l'heure.
On va y réfléchir.
Très bien. Merci Clément, on te retrouvera donc tout à l'heure à 19h avec tous nos autres envoyés spéciaux pour ce multi Plex Ligue 2 qui sera animé non pas par Benoît Boutron mais par Arnaud Valadon. Et oui, Benoît est encore en vacances, donc il sera là très bientôt, je sais pas, d'ici 2-3 mois. 15h35 sur RMC, on va repartir sur nos terrains de Ligue 2 avant d'accueillir dans un instant Morgan Mori pour parler de basket, la Ligue 2 avec donc deux équipes qui sont menées à domicile, c'est le cas des Girondins de Bordeaux et ce depuis le début du match face à Guingamp. Nicolas,
oui, 35 minutes de jeu et c'est l'en avant Guingamp qui mène 1-0, le buteur Jérémy Livolant, le capitaine Guingampé qui a ajusté Gaëtan Poussin d'une frappe croisée sur un face-à-face. Nouveau carton jaune sorti par Aurélien Petit contre Gaëtan Courté, cette fois l'attaquant Guingampé. Il y a quand même une facilité chez nos arbitres en ce moment à pourrir un peu les matchs en sortant très très vite des cartons et en mettant de la tension, alors que c'était pour l'instant un bon match de foot, franchement engagé, mais tout ce qu'il y avait de plus correct. Et là on sent que depuis Monsieur Petit a sorti 2-3 cartons, bah, ça tend tout le monde, il y a de la frustration. Et du coup, les fautes sont de plus en plus sales. Le ballon pour Jacques Écomier, le latéral gauche de Bordeaux. Il y a des situations pour Bordeaux, hein, mais toujours pas d'occasion véritablement nette sur le but de Basilio, qui n'a pas fait le moindre arrêt. Attention à ce pressing de Franck Sergio sur justement Enzo Basilio qui s'en sort, qui va relancer très très long directement sur Gaëtan Courtet. On a 30 mètres du but de Poussa avec Barthelmé pour Livolant. L'intervention de Greg Garcet, mais c'est pas terminé pour Guingamp avec Barthelmé à l'entrée de la surface de réparation. Il se met sur son pied gauche, alors il se déchire. Il se déchire complètement sur cette frappe qui va passer largement au-dessus. 1-0 pour Guingamp. Il reste un peu moins de 10 minutes dans cette première mi-temps.
Metz également mené sur sa pelouse par Dijon, Sébastien.
Oui, 1-0 pour Dijon et ce but de la 30e minute, pardon, inscrit par Silva, son deuxième but de la saison. Et depuis, bah, ça a eu le mérite de réveiller un petit peu les Messins, hein, quand même. Hein. C'est vrai que là, ou alors ce sont les Dijonais qui inconsciemment ont un tout petit peu reculé. Mais on a vu notamment un beau mouvement. Là. Tout à l'heure, je disais précédemment que les Messins étaient un peu maladroits, que ça combinait pas très bien. Et bah là, sur le côté gauche, ils ont réussi à combiner. Et ce ballon de Mathieu Hudol qui est arrivé dans la surface de réparation jusqu'à Georges Mikotadze, le beau contrôle orienté en se retournant pour se remettre dans le sens de la marche et du but, et la frappe enchaînée, mais elle était à côté du but de Baptiste René. Ça a eu le mérite de réveiller un petit peu tout le monde et notamment le stade, parce que c'est vrai que on regarde un petit peu ce FC Metz subir, ne pas se trouver offensivement, être un petit peu maladroit comme on l'a vu tout à l'heure avec Lamine Gueye qui récupère un ballon dans la surface de réparation à droite et il centre, et là il faut assurer son centre, il la top un peu, ça donne un truc qui arrive à 2 à l'heure et qui est repoussé par la défense sans aucun problème. Donc voilà, va falloir mettre un peu plus de précision dans tout ce qu'ils font les Messins s'ils veulent revenir dans cette partie. Un mot de l'arbitrage, bah là pour le coup, contrairement à Nico, je trouve que monsieur Benoît Millot pour l'instant tient bien les débats. Un petit carton jaune sorti pour un coup de Christophe Roca sur un duel aérien, mais sinon pour l'instant ça se passe plutôt bien. Et puis j'ai bien aimé le Welsh au Maroilles, entre la fête de la Mirabelle et le Welsh au Maroilles, tu vois, RMC c'est aussi le terroir, tu vois, c'est ça. Ah bah c'est, oui, ça oui. C'est la France, tu vois.
Je veux dire, voilà, un drôle d'état les gars. Hein.
Finir par une petite Mirabelle après le Welsh au Maroilles, je pense que
la sieste elle est pas mal. Un peu grand pour rentrer en Alsace toi derrière, fais attention.
Oui, oui, non, je vais être tranquille. Pas. 38 minutes ici, 0-0 1-0 pour Dijon ici à Metz.
À tout à l'heure Sébastien, 15h38, on va parler de basket avec notre spécialiste Morgan Mori.
Bonjour à tous.
Qui rentre des championnats d'Europe, ça fait un moment qu'il est rentré, mais un petit retour un peu plus précoce que prévu. Ça va Morgan?
Très bien.
Bon, Du basket ce soir?
Du basket, match de qualif.
Ouais, alors c'est quoi, la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, on est un peu perdu avec ces compétitions qui s'enchaînent, qui se mélangent. Bah, c'est la Coupe du Monde. Hein.
C'est un match de qualification à la Coupe du Monde 2023.
D'accord.
Et les Français, dans 5 jours, participent à l'Euro. Donc c'est un match à la fois de préparation, mais un match de qualification pour la...
Tu te prépares en Coupe du Monde pour l'Euro, quoi, ouais, c'est ça.
Exact.
C'est un peu ça. Très bien.
Tu qualifies pour la Coupe du Monde en préparant l'Euro. C'est face à la Bosnie, à Sarajevo. Match à 20h ce soir. Les Français vont disputer, Christophe, soir leur dernier match avant le voyage pour affronter l'Allemagne le 1er septembre. Gros match pour entamer l'Euro. Les Bleus ont tout gagné lors de leur préparation. Ils ont battu les Pays-Bas, l'Italie deux fois, la Belgique et la République tchèque cette semaine, qui était déjà un match de qualification pour le championnat du monde, la Coupe du Monde 2023. Les Bleus se sont imposés 95-60 face aux Tchèques mercredi à Bercy. Mais tout est loin d'être parfait dans l'équipe de Vincent Collet. Les Bleus ont raté leur entame, ils ont été menés deux fois de 10 points. C'est récurrent dans cette équipe de France. Objectif, peaufiner tout ça, faire table rase de ces scories. Je vous propose d'écouter Vincent Collet sur ce problème de l'entame de match, problème récurrent chez les Bleus. Vincent Collet, le coach français, interviewé par Arnaud Valadon.
C'est forcément un motif d'inquiétude, c'est en tout cas un motif d'amélioration. Il faut absolument qu'on fasse mieux. On va réfléchir comment. Est-ce que c'est en changeant l'équilibre du 5? C'est possible, c'est même très probable. On met en confiance aux adversaires, donc il faut qu'on élève le ton. Voilà, c'est clairement un motif, une marge de progression pour cette équipe de France.
Après cette rencontre, la France, Christophe, est quasiment qualifiée pour cette Coupe du Monde 2023. Les Bleus sont en tête à égalité avec la Lituanie. Si les Bleus l'emportent ce soir face à la Bosnie, la qualification pour la Coupe du Monde 2023 ne fera pratiquement aucun doute. Attention, c'est Bosnien que les Français affronteront lors de leur phase de poule de l'Euro début septembre.
Alors, la Bosnie, évidemment, c'est une entité de l'ancienne Yougoslavie. C'est dans cette salle, à Sarajevo, je crois que la Yougoslavie avait décroché un titre de champion d'Europe il y a quelques années. Donc, il y a une ambiance particulière dans cette salle un peu désuète, un peu ancienne, où vont jouer les Français ce soir.
Hein. Oui, c'est ce que nous raconte l'envoyé spécial du journal L'Équipe aujourd'hui. La peinture qui se décolle, le plafond qui tombe un peu en miettes.
Ouais, mais on espère qu'il ne va pas complètement tomber quand même.
C'est le panneau de basket qui est tombé cette semaine.
On rappelle qu'à Sarajevo, par exemple, au moment de la guerre, le stade olympique où s'étaient déroulés les Jeux d'hiver en 1980, si je dis pas, 84, je ne sais plus, avait servi justement on avait enterré des victimes de la guerre entre la Bosnie et la Serbie à l'époque. Hein. Ça n'a pas été le cas de cette salle de basket. Hein.
Forcément, un public chaud, ce qui est toujours le cas en ex-Yougoslavie. C'est une bonne équipe, la Bosnie-Herzégovine, qui est en difficulté dans cette poule avant-dernière. 3 victoires, 4 défaites, une équipe qui joue sa survie. Les Bleus ont un excellent bilan face à la Bosnie. 9 victoires, 0 défaites, des gens qu'on connaît dans cette équipe bosnienne. Le meneur John Robertson, qui est un habitué, un ancien du championnat de France, qu'on a vu à Chalon, qu'on a vu à Strasbourg. Et l'attraction, c'est l'homme qui aura en face de Rudy Gobert, Youssouf Nourkic. 2m16 pour Rudy Gobert, 2m12 pour Youssouf Nourkic, le pivot des Portland Trail Blazers. Et l'enjeu, c'est bien préparer l'Euro, je vous l'ai dit. S'il y a victoire, les Français sont quasiment qualifiés pour la Coupe du Monde 2023. Les Bosniens jouent leur survie, Christophe.
Très bien, l'équipe de France donc en quête de qualification pour la Coupe du Monde 2023. En revanche, l'Euro, ils sont déjà qualifiés, ben heureusement, parce que ça débute dans quelques jours. Alors, est-ce que Vincent Collet va garder le même groupe là pour disputer l'Euro, ou est-ce qu'il va changer des choses en vue de cette deuxième et plus importante compétition,
hein? Alors, c'est sa dernière cartouche hein, ce soir pour effectuer des ajustements, voir l'état de forme des uns et des autres. Le 5 de départ ne devrait pas bouger, je vous le redonne: Thomas Hurtel, Timothée Luwawu-Cabarro, Evan Fournier, Gershon Yabusele et Rudy Gobert. Par contre, à la marge, sur le banc, Vincent Collet fait revenir Andrew Albici, qui avait été touché à une cuisse. C'est son retour, le joueur de 32 ans. Et l'homme qui va rester en tribune ce soir, c'est Théo Malédon, qui a été en difficulté pendant cette préparation. Est-ce que ça veut dire que Théo Malédon ne participera pas à l'Euro? Vincent Collet a botté en touche, mais c'est peut-être un mauvais signe pour le jeune joueur. Donc, dernier test pour Andrew Albici. Il y a pour l'instant 13 joueurs dans cette équipe de France. Et la veille du match inaugural face à l'Allemagne le 1er septembre, donc le 31 août, Christophe, Vincent Collet va enlever une unité à son équipe. Il va passer de 13 joueurs à 12 hommes, et ce sera la configuration finale pour l'Euro. En tout cas, Malédon qui semble sur la sellette.
Très bien. Ce match, cet Euro que les Français vont disputer, ils le disputent avec de grosses ambitions. L'objectif, c'est tout simplement d'être champion d'Europe.
Oui, c'est ce que dit Rudy Gobert. Marque des médailles d'argent, marque de la médaille d'argent olympique, médaille en Coupe du Monde pour les Bleus. On rappelle que Nando De Colo et Nicolas Batum, deux grands hommes qui ont porté l'équipe de France, sont absents. Ils ont préféré faire l'impasse sur cette compétition pour revenir la saison prochaine pour la Coupe du Monde et préparer les Jeux Olympiques à Paris. La France vise le titre européen, mais il y aura du très beau monde en face, la Serbie, la Grèce, et une poule compliquée avec l'Allemagne, la Lituanie et la Slovénie, Luka Doncic.
Merci beaucoup mon cher Morgan, donc rendez-vous ce soir 20h pour cette rencontre entre la Bosnie et la France, dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 2023, en tous les cas il restera une série, mais ce ne sera pas tout de suite, il y aura l'Euro à disputer avant cela. Merci Morgan, on vit les dernières secondes des deux matchs de Ligue 2 qui ont débuté tout à l'heure à 15h, c'est le cas à Bordeaux, les Girondins qui sont menés par Guingamp, Nicolas.
1-0 pour Guingamp depuis la 6ème minute. Le but de Lee Volant. Et il y a eu deux occasions. Une pour Bordeaux avec une grosse opportunité pour Logan Delorier-Chaubet dans la surface de réparation. Mais il contrôle mal son ballon. Du coup, il ne peut pas se mettre en position de frappe. Et sur le contre qui suit, bon centre venu de la droite pour l'en avant Guingamp. Tête de Gaëtan Courtet qui oblige Gaëtan Poussin à se coucher sur sa gauche et à stopper ce ballon, à le bloquer dès demain. Le ballon pour Bokele. Les 3 minutes de temps additionnel. On vient d'entrer dans ce temps additionnel. Malcolm Bokele qui va écarter avec Tom Lacou, il y a des possibilités pour Bordeaux, mais on les sent un petit peu amorphes ces jeunes Girondins. On avait vu beaucoup d'insouciance sur les 4 premiers matchs, de l'insouciance, de la rigueur dans le plan de jeu. Là on les sent un peu émoussés physiquement, et on rappelle que les équipes de Ligue 2 attaquent une semaine à 3 matchs hein, donc ça peut être compliqué pour Bordeaux. On est entré dans le temps additionnel depuis 30 secondes, 1-0 pour Guingamp.
Voilà, 3 minutes de temps additionnel pour ce match entre Bordeaux et Guingamp, le temps additionnel aussi qui va arriver dans un instant à Metz. Non, Sébastien,
pas de temps additionnel, c'est la mi-temps.
Ah bah d'accord. Voilà,
on a joué 45 minutes très précisément, pas une minute de plus. Et l'avantage pour les Dijonais, 1-0 grâce à ce but de Alexander Nascimento. Costa Silva à la 30e minute, avantage mérité hein, franchement pour les Dijonais qui ont fait une belle première mi-temps, solide, cohérente face à des Messins pour l'instant très maladroits hein, vraiment dans le dernier geste, c'est un peu la tête dans le guidon pour l'instant, va falloir remettre les choses en ordre et c'est la soixantaine de supporters Dijonais qui est plutôt content d'avoir fait le déplacement qui n'est pas le plus long de l'année pour eux, donc ils sont bonne ambiance aussi pour les supporters dijonnais qui sont là, 1-0 donc pour Dijon à la mi-temps à Metz.
Allez, une petite Mirabelle à la mi-temps et tu reviens tout à l'heure. Merci bon, Sébastien. Voilà, bien réchauffé, ce sera le cas. 15h46, un point sur la Vuelta avant de repartir à Bordeaux dans un instant avec toi, Johan, à 60 km de l'arrivée, un peu plus.
Ouais, 61,3 km de l'arrivée, les échappés qui sont dans le Puerto des Tenebreo, donc la quatrième difficulté de la journée, il y en a 6 aujourd'hui, cette étape qui finira par le Coyo Fancoya, 10 km à plus de 8% de moyenne, donc c'est là que les favoris vont se jouer la gagne peut-être pour l'étape, s'ils arrivent à revenir sur les échappés qui possèdent 4 minutes et 13 secondes d'avance, et parmi lesquels on a Thibaut Pinot notamment, bien accompagné de ses coéquipiers Bruno Armirail et Sébastien Reichenbach. Mais voilà, il y a toujours du beau monde. Mikel Landa qui est là, Alexei Gutsenko, Renta Ramae, Lucas Hamilton, Mats Pedersen ou encore Marc Soler et Jay Vine. Donc c'est 10 hommes qui possèdent plus de 4 minutes d'avance, l'écart qui stagne hein, depuis plusieurs kilomètres maintenant et qui sont dans la quatrième difficulté du jour, encore 60 kilomètres à parcourir.
Merci Johan, les dernières secondes, ça siffle à Bordeaux, Nicolas.
Oui parce qu'il y a un duel aérien là très limite entre Gaëtan Courtet et Gregersen, et Gaëtan Courtet il a été déjà averti, il a pris un carton jaune, l'attaquant de Guingamp. Donc bien sûr le public du Maître Mutant qui essaye de mettre la pression un peu à Monsieur Petit. On va finalement se relever et laisser jouer. 1-0 pour Guingamp. 6ème minute de jeu. On va vertir sur le banc de touche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Monsieur Petit qui va voir son adjoint. Alors il va mettre un carton jaune à David Guillon. David Guillon, il est frustré, l'entraîneur bordelais, depuis le début du match, parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour Bordeaux qui joue plutôt bien, qui est mené. Alors c'est un adjoint de David Guillon, Monsieur Montero, qui va prendre ce carton jaune. Ouais, et quand je te disais qu'il y avait de la tension, et franchement c'est un match qui est très correct dans l'engagement. Il y a du duel, c'est un match pro, quoi. C'est un sport de contact, le foot, et Monsieur Petit, il envenime la situation. Le ballon pour les Girondins avec Josh Maja, la roulette de Josh Maja, c'est bien fait. Ça sera un coup franc pour Bordeaux. La dernière opportunité, probablement. Il doit rester 30 ou 45 secondes en fonction du temps qui sera rajouté par Monsieur Petit après ce carton jaune donné à un membre du staff des Girondins de Bordeaux. 1-0 pour Guingamp. On est à 30 mètres, 35 mètres même sur la droite. Donc on va pouvoir le jouer dans deux temps, pardon, en faisant monter l'écran, en faisant monter Greg Arsène, en faisant monter Malcolm Bokele. Il y a également Fran Sergio, il y a Ignatenko qui est très à l'aise dans le jeu air. Il y a autour du ballon Tom Lacou, le capitaine. Ce sera probablement pour le pied gauche de Logan Delaurier-Chaubet qui tire les coups de pied arrêtés depuis le début de cette saison. Un homme guingampé est dans le mur. Les joueurs qui sont alignés autour de la surface de réparation, Monsieur Petit qui est vigilant, on le rappelle, il n'y a pas de VAR. Ça sera finalement pour le pied droit de Tom Lacou au deuxième poteau. La tête de Bokele qui va passer à côté. Mi-temps entre Bordeaux et Guingamp. 1-0 pour les Guingampais. Le buteur Li Volant à la 6ème minute. Mais la domination, elle est bordelaise.
Merci Nico, à tout à l'heure pour la deuxième période. Il est 15h49. On revient dans un instant. On va s'intéresser à Lens-Rennes. Ce sera le match vedette de la soirée. 21h tout à l'heure à Bollard. On en parle avec Jean Baumel dans un instant.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux. Pour les dernières minutes de l'Intégral Sport, je vous rappelle qu'à la mi-temps des deux matchs de Ligue 2, eh bien avantage aux équipes visiteuses. C'est le cas de Dijon qui mène 1-0 sur la pelouse de Metz. C'est le cas également de Guingamp 1-0 à Bordeaux. Les deuxièmes mi-temps débuteront dans quelques instants. Et puis un peu plus tard, vous le savez, à 17h, match de Ligue 1 pour ouvrir la quatrième journée entre Auxerre et Strasbourg. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. On va maintenant s'intéresser à l'autre match vedette de la soirée entre Lens, tout simplement Dauphin du Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, club européen. C'est une belle affiche qu'on va vivre ce soir avec Jeannot Rességuier et avec Jean Baumel qui est avec nous. Salut Gibaud, comment ça va?
Salut Christophe, ça va très bien et toi? Content de te retrouver.
Gibaud et Jeannot sont dans un bateau, en tous les cas ils sont à Bollard ce soir.
Ce dimanche dernier on a vu un match de dingue, surtout pour les supporters parisiens avec le 7-1 contre Lille. Oui. Alors, on espère qu'on aura du spectacle, peut-être un peu plus serré quand même, mais en tout cas non ça s'annonce bien. En tout cas, stade à guichet fermé, ça va être dur de trouver des places à Bollard cette saison, parce que même contre Brest lors de la première journée c'était déjà guichet fermé, hein. Il y a un engouement à Lens qui est exceptionnel. On retrouve le Lens des, tu sais, de la belle époque des fins des années 90 où ils ont été champions à la plus belle ère avec Gervais Martel. Et là on a l'impression que vraiment tout revient et que Lens franchit les étapes de saison en saison.
Bah oui, parce que c'est vrai que la saison du retour en Ligue 1 l'année dernière avait été magnifique, notamment le début de saison. Après, ça a été un petit peu plus compliqué sur la fin.
Les deux, hein, parce que là, c'est la troisième. Ils ont fini septième, septième et septième. C'est vrai qu'on se pose la question. Puis là, le début de saison, tu vois, victoire à Bollard 3-2 contre Brest. Bon, ils font 0-0 à Ajaccio avec une pelouse qui était un peu compliquée. Puis surtout, ils ont été gagnés pour la troisième fois de suite, trois saisons de suite à Monaco la semaine dernière, 4-1. Donc c'est vrai que ça marque les esprits. Tous ceux qui sont partis ont été remplacés. On pense surtout, bon, les gros départs, c'est Jonathan Clauss, hein, notamment parce qu'il est parti à Marseille, international français désormais. Et ben, Frankowski, qui jouait plutôt à gauche, est passé à droite. Dans les buts, et bien, le malheur de Farinez, rupture des ligaments croisés d'un des deux genoux, et puis Jean-Louis Leca, qui est passé numéro 2. Et bien, ils ont recruté un gardien qui est d'un niveau encore supérieur, c'est Brice Samba. Franchement, on a l'impression que Lens est déjà prêt, ça c'est sûr, mais même que Lens est meilleur, parce que devant, ils avaient Kalimouendo en prêt depuis deux saisons par le Paris Saint-Germain. Et là, ils ont pris le jeune attaquant international belge Loïs Openda, qui a déjà marqué. Non, franchement, c'est séduisant. Et puis, c'est Kofofana qui, on pensait ne plus voir porter des couleurs sang et or, est toujours là. Alors, il y a une petite crainte qu'il parte avant la fin du mercato. Mais on a vraiment l'impression que le club fait tout pour garder un effectif de qualité, d'essayer pourquoi pas de secrètement peut-être viser une place européenne et surtout de se mettre à l'abri le plus vite possible, parce qu'on va rappeler quand même qu'il y a 4 descentes. Lens fait partie des 14-15e budget de Ligue 1. Même si ça va bien sportivement, il faut quand même assurer le minimum. Ces fameux 4 descentes, on va en entendre parler toute la saison, parce que pour ceux qui prennent pas de points en début de saison, ça peut être rapidement la valse des entraîneurs.
Bon, ils ont déjà 6 points d'avance sur le premier relégable, donc 5 points d'avance, donc c'est déjà pas mal.
Non, mais ça s'annonce bien. Puis voilà, en face, Brest qui a petit peu démarré difficilement avec une défaite contre Lorient à domicile. Après, bon, bah, ils ont fait un nul contre Monaco et ils ont battu la CA. C'est en tout cas un beau duel avec deux équipes qui, offensivement, pareil, du côté de Rennes, on va avoir une équipe très offensive, hein, avec Bourigeaud, Terrier, Laborde, Doku. Donc, voilà, ce qu'on espère, c'est avoir vraiment du spectacle parce que c'est deux équipes qui marquent beaucoup de buts, mais l'année dernière, eh bien, les affrontements, il n'y a pas eu non plus beaucoup de buts. C'est depuis le retour de Lens en Ligue 1, eh bien, c'est deux victoires pour Lens, deux nuls, entre les deux formations. Voilà, il y a tout sera réuni ce soir pour avoir du spectacle. On espère qu'on aura, voilà, des buts et une enflammade de Bollaert, même si ça peut être un nul, hein, qui fait 2-2, 3-3. Forcément, dans l'or, on veut tous une victoire de Lens, parce que, en plus, que si tu regardes le classement, c'est que, ils seront, au minimum deuxième parce que Paris joue plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a un changement, un retour de positivité à Lens qui est extraordinaire et, enfin, et ça
être,
fait du bien.
Il peut même être leader provisoire.
Voilà, c'est ça. Hein, mais bon, vu Paris en ce moment.
Oui, bon, après Paris jouera demain. Mais, ouais, mais oui, en attendant, ce sera déjà ça. Hein, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui soient en tête du championnat outre le Paris Saint-Germain cette saison. Donc,
faut profiter.
Même 24 heures, je pense que ça sera bon à prendre. Très bien,
t'as bien raison.
On trouvera donc tout à l'heure à Bollaert avec Jeannot. Voilà une belle équipe pour vous faire vivre ce Lens-Rennes tout à l'heure, 21h, 15h56. Un tout petit mot de Vuelta rapidement avec toi, Johan.
Oui, bien sûr, il reste 55 km. On arrive au sommet du Puerto de Tenebreo et toujours Dizam en tête qui possède 4 minutes d'avance avec Thibaut Pinot qui est bien accompagné de Bruno Armirail et Sébastien Reichenbach, ses coéquipiers.
Merci, Johan. Il est 15h57. Dans un instant, Florent Moussy va vous rejoindre pour la suite de l'Intégral Sport. Je vous retrouve demain matin dans les grandes gueules du sport. Bon après-midi, bonne soirée, ciao.